de Dieu, c'est le thème, à mon avis, c'est le thème du livre. Quand on lit cette histoire, je pense que le but c'est qu'on voit la fidélité et miséricordieuse de Dieu. Et hier soir, j'ai essayé de vous présenter cette fidélité à travers la vie de Ruth, de Naomi. Et comme on l'a vu, c'est comme Dieu travaille dans les coulisses. Il est toujours là, il fait son travail, mais souvent, on ne sait pas ce qu'il fait. Et ce matin, j'ai lu quelque chose de très intéressant, c'est un homme qui parlait à ceux qui sont des parents. On sait, quand on a un enfant de 2 ans, il veut tout maintenant. Ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et c'est toujours maintenant. Maman, tout le temps. Parce qu'il veut quelque chose maintenant. Mais souvent, nous, en tant que parents, nous avons une perspective plus grande. On peut voir, c'est pas bon, on peut attendre. On a d'autres choses à faire à ce moment-là. Et cet homme, l'auteur, il a dit, devant Dieu, nous sommes les enfants de 2 ans. Nous disons, maintenant Dieu, agis maintenant, j'ai besoin de toi. Maintenant, mais Dieu le sait. Ce qui doit passer, ce qui doit passer en 10 minutes, en 10 jours, 10 mois, et après 10 ans. Et parfois, c'est à nous d'attendre comme les enfants de 2 ans. Ça, c'est la vie de Naomi. Mais maintenant, on va voir la vie, la fidélité miséricordieuse à travers la vie de Ruth. Et je pense qu'on peut voir dans sa vie, cette miséricorde envers aux personnes marginales. La fidélité miséricordieuse montre aux personnes marginales. Et qui parmi nous n'avait jamais senti cet état d'être marginal? Moi, je savais ton question. C'est quoi marginal? C'est-à-dire, je n'appartiens pas. À l'école, il y a des filles qui font des amis, mais moi, je suis un peu à part du côté. Il y en a qui écart entre moi et eux. Ou dans la famille, je fais partie de la famille, mais je n'appartiens pas. Parce que je suis différent. Et ça arrive souvent avec les chrétiens. Ou si on est étranger, on arrive dans un pays, mais on est étranger, on sait être étranger, parce que les autres ils disent toujours, vous êtes étranger. et c'est pas toujours mauvais, mais c'est une partie de la vie. On n'appartient pas toujours au groupe. Et comment Dieu réagit aux personnes marginales? Je pense que ça c'est l'une des choses qu'on peut apprendre de la vie de Ruth. D'accord. Première point. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais son état marginal parmi le peuple de Dieu. Ruth, elle se trouvait dans un état marginal. Et c'est souligné par le livre. C'est intéressant quand on prend le temps pour bien lire ce livre, parce qu'on voit qu'elle était dans la position d'une belle fille. D'accord? J'imagine qu'il y a en France des blagues aussi qui concernent la belle-mère et la belle-fille, n'est-ce pas? Oui, vous êtes assis, on a plein de choses. Mais c'est pas bon normalement, mais ça communique une vérité. Souvent, il y a un peu de stress entre la maman du mari et sa femme. Et on va regarder si ça marche. J'espère que ça va marcher. On va voir.
Chapitre
38. C'est ça? Non, je vais chercher bien. 38, verset 11. C'était Judas. Il était le beau-père. Et après avoir eu deux maris qui sont morts, il a dit, retournez chez ton père et attendre mon troisième fils. Mais elle restait avec son père. Bon, elle était dans un état assez marginal. Elle était la belle fille, elle n'était pas la fille. Mais B, d'accord, on va regarder maintenant B. Elle était dans une position d'une veuve dans la société. Une veuve dans la société. Et si on regarde, ici, chapitre 2, verset 2, d'être une veuve, ça change la position dans la société. Dans la société. Elle doit trouver sa place elle-même. C'était Ruth qui doit chercher leur pain. Elle doit travailler. Verset 2. Laisse-moi, je te prie, aller l'année des épis dans le champ de celui au Dieu duquel je trouverai grâce. C'est-à-dire, ça ne vient pas à moi parce que j'ai le droit. Je dois la grâce de quelqu'un pour avoir le pain. Quelqu'un doit avoir de la miséricorde. Il doit pitié pour moi. Et ça, c'est sa position. Et même aujourd'hui, hein, on ne sait pas d'être comme ça, mais une veuve, souvent, elle n'a pas la même position dans la société. Elle est mise à côté souvent parce qu'elle a plus de stress souvent, mais aussi, elle est seule, elle était mariée avant, mais maintenant, elle est pas mariée. Et c'est quelque chose de triste, mais elle était marginale, elle n'était pas au centre de la société. Et la lettre C, qui est le plus dur pour elle, elle avait une position d'une moabite dans la société. Et ça, c'était quelque chose de grave pour elle. Elle était vraiment marginale. Et encore une fois, je vais vous montrer comment l'auteur, le narrateur, met l'accent sur le fait qu'elle est une moabite. D'accord? Il termine Naomi, Ruth, la moabite. D'accord? Verset 2, chapitre 2, c'est quoi? Trois fois d'après, Ruth, la moabite. Verset 6. C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays Moab. Ça, c'est un peu effectif. Hein. C'est un Américain qui vient d'Amérique. C'est un Mexicain qui vient du Mexique. D'accord, merci. Et elle-même, elle savait qu'elle n'était pas. Elle ne appartenait pas à la société. Elle a dit, verset 10, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Je sais que je suis une étrangère. Et un peu plus tard, verset 13, elle dit, « Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Elle a déjà utilisé un autre mot pour servante, qui était le plus bas. Je suis la servante le plus bas. Je ne suis pas comme les servantes qui sont plus que moi. Elle avait cette idée au cœur. Je n'appartiens pas Et plus tard, verset 21, chapitre 2, Ruth, la Moabite. D'accord, merci, je comprends maintenant, je viens de voir. Mais il continue. Chapitre 4, Boaz lui dit, le jour où tu accueilleras le champ de la main de Naomi, tu l'accueilleras au même temps de Ruth, la Moabite. Il veut s'unir pour cet homme. Elle est une Moabite. Elle n'appartient pas à notre pays. Et verset 10, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite. Le narrateur met l'accent sur le fait qu'elle vient de Moab. D'accord. Elle est étrangère. Mais c'est plus pire que ça. C'est plus pire que ça. Parce que d'être Moabite n'est pas une bonne chose. Je ne sais pas si vous êtes en train de lire la Bible et vous avez déjà commencé la Genèse. Peut-être que vous êtes en juge, je ne sais pas. J'imagine que vous avez déjà bien passé le juge. Mais en juge chapitre 3, c'est quel pays qui est les dominateurs d'Israël, les oppresseurs? C'est le pays de Moab. Mais comprenons-nous, hein? Ici en France, on a les Français, ils ont une histoire très très longue, n'est-ce pas? Mais dans le mémoire de ceux qui habitent à Vlas, même plutôt à Paris, qui habitaient à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont vécu une oppression d'un pays pendant plusieurs années. Ils ont perdu combien de 1000 personnes? C'est incroyable combien de personnes se tuent pendant les deux guerres mondiales entre la France et l'Allemagne. Et c'est difficile, après avoir vécu une époque comme cela, de ne pas avoir dans la tête, je n'aime pas ce qui vient de ce pays. Je n'aime pas. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui vient de ce pays. Et pour nous, je pense que peut-être cela peut illustrer un peu l'esprit de ceux qui habitent à cette époque-là en Israël. Ils sont des oppresseurs. On ne peut pas accueillir quelqu'un comme elle. La Moabite, c'était quelqu'un qu'on n'aime pas trop. Elle est étrangère et en plus elle vient de Moab. Mais c'est plus pire que ça. Parce que si on voit Deutéronome, on peut voir ensemble Deutéronome chapitre 23. Qui veut dire pour nous verset 4 à 7.
Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Et l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays.
Il parle de qui? De Moabite. De Moabite. Parce que toi, n'est-ce pas? Je voulais en Deutéronome, ça c'est quelque chose de très très fort. Le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Jusqu'à la postérité. C'est-à-dire, c'est comme il y avait une loi française qui dit que personne qui vient d'Allemagne ne peut jamais avoir le droit d'être citoyen en France. Pas voter, pas recevoir la sécurité sociale, le truc maladie. C'est fort, hein? Et elle vient d'où? Et je pense que vous voyez, hein, elle était vraiment une personne marginale. Vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
D'accord, je ne veux pas éternuer moi, mais je pense que ça, c'est une fondation très importante. D'accord. On voit son état. Voilà. Son état marginal. Elle est une belle fille. Elle est une veuve. Elle est une moabite. Les choses ne sont pas bonnes pour elle. Mais on peut voir aussi qu'elle a eu un accueil chaleureux par le peuple de Dieu. N'est-ce pas? D'accord. Son accueil chaleureux par le peuple de Dieu. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très encourageant. Cette Moabite qui, normalement, ne peut pas entrer dans l'assemblée de Dieu et, en tant qu'une étrangère, n'avait pas le droit d'être reçu parce qu'elle est une Moabite. Elle a eu un accueil chaleureux. Et c'est bien de voir que cet accueil est reçu au niveau humain. Si on voit dans l'histoire, Naomi a dit à plusieurs reprises ma fille. Ma fille. Ça, c'est une expression d'affection. Ma fille. Par le village. D'accord? On attend peut-être que le village dise non. Pas des étrangères. Des étrangers. Et surtout pas des Moabites. J'habite dans une. C'est une ville, une petite ville de 4000 personnes. Et c'est calme, c'est tranquille, c'est chouette. Et une fois, je l'ai dit à David, une fois j'étais avec un homme et je dis, bon, vous êtes à l'usage du camp, ça va, ça vous plaît? Oui, bien sûr, c'est calme, c'est tranquille et pas trop d'étrangers. Sauf moi, et il m'a dit, bon, vous n'êtes pas étranger. Et après, il a indiqué ce qu'il pense sont des étrangers. Et il y a toujours cette idée, et surtout dans les villages, les petites villes, qui sont un peu homogènes, on a l'idée qu'on ne veut pas ces personnes. Soit parce qu'ils viennent d'un certain pays, ils appartiennent à un certain niveau de la société, et donc Le village Bethléem n'était pas grand. C'était pas un métro parmi. C'est quoi? Métropole avec pas mal de nations à présenter. C'était un village assez petit. Mais comment observer leur réponse? Elle est bienvenue. Quand Boaz a décidé de se marier avec elle, on ne dit pas qu'il y avait des manifestations contre elle aux rues, hein, aux armes. Non, c'est pas comme ça, hein. D'accord. Béni soit elle, comme Rachel, et comme Tamar. Mais par les servants de Boaz aussi, chapitre 2, vous connaissez maintenant l'histoire. Mais chapitre 2, elle vient, elle demande la grâce. Est-ce que je peux travailler dans le champ? Et il dit, apparemment, oui. Même si vous êtes étranger, même si vous êtes noiri, parce que vous savez, parce qu'on te dit à Boaz, elle est rue la Moabite. Et à le soir, un accueil chaleureux par le servant de Boaz. Et même Boaz, il est un exemple. Il est très gentil. Parce que quand il parle à elle, elle vient et il ne parle pas comme il est plus haut qu'elle. Oh, d'accord, je te laisse. Il dit non, tu restes dans mon champ. J'ai commandé, j'ai donné l'ordre à mes servants, et ils ne peuvent pas se toucher. Tu es sécurisé. Viens, mangez avec nous. Et après, il dit à ses serviteurs, bon, laisse un peu plus, d'accord, ouais. Et vous savez, elle a bien travaillé, elle travaille pendant toute la journée. Après, elle doit, je ne sais pas, planer. Et vous savez, quand elle est rentrée à la maison, elle avait à peu près 22 kilos. C'est pas mal, hein? Sans machine. Elle a fait tout à la maison. Et ça, c'est impressionnant, franchement. C'est impressionnant. Mais elle a eu la grâce de Boaz, parce que sans Boaz, j'imagine qu'elle aura dû avoir beaucoup moins. Bon, elle a eu un accueil chaleureux. Et je pense pour nous, ça pourrait être. Est-ce que nous sommes des personnes qui recevoir les personnes marginales? On est en train d'éduquer nos enfants à la maison. Et on essaie de dire, nous devons être les personnes qui reçoivent les autres. C'est nous, c'est pas pour les autres d'être les personnes chaleureuses qui dit non, venez, viens. Fais partie de notre groupe. Ça, c'est à nous. Ça, c'est le cœur de Dieu qui invite les personnes marginales d'être partie de sa famille. Et on peut voir aussi la lettre B. Lettre A au niveau humain, lettre B au niveau divin. Qui veut bien Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 19 pour moi? Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 19. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel, et c'est là que je précise aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce que l'on ferme. C'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi dans tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez dans votre cœur, et vous ne donnerez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'exception des personnes, et qui ne reçoit point de présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui est l'étranger, et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte.
Verset 19, il contient deux raisons pour lesquelles il faut accepter les étrangers. Premièrement, c'est clair, car vous avez été étranger en Égypte. C'est-à-dire, vous avez déjà vécu cette situation, donc être compatissant. Hein. Soyez compatissant. Mais en hébreu, il y a aussi une connexion entre versets 19 et 18, où Dieu dit, Dieu aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements, donc vous aimerez l'étranger. C'est en fait l'expression du cœur de Dieu. Vous devez accepter les étrangers parce que je les aime. Ça, c'est le cœur de Dieu. Même avec les païens qui ne sont pas le peuple choisi. Et pour nous, quand on lit en Ruth que le peuple pense que le peuple reçoit cette femme Moabite, c'est une expression du cœur de Dieu. Ça, c'est la caille charnée de Dieu pour les étrangers, et en particulier pour Ruth. Et on peut le voir, chapitre 2, verset 2, en Ruth, c'est Boaz qui parle. Et il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Boaz, c'est un homme qui aimait Dieu. C'est un homme différent de cet environnement. Mais il a reconnu que c'est Dieu qui va bénir cette femme. Parce qu'elle a cherché sa refuge en lui. D'accord. Ça, c'est l'accueil charnel au niveau humain et au niveau divin. Et on est en train de voir la miséricorde, la fidélité miséricordieuse montrée aux personnes marginales. Et maintenant, on va voir réellement son rôle crucial pour le peuple de Dieu. C'est une vérité assez triste, mais souvent, on ne fait pas attention aux personnes marginales parce qu'on pense que ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas les personnes importantes. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour nous? Et donc, si la personne n'a pas une grande importance, donc, mais on peut voir ici, Ruth, elle joue un rôle très important pour Naomi, bien sûr. Ce n'était pas Naomi qui est allé au champ pour chercher le pain. C'était qui? Chapitre 4, chapitre 4, verset 14 à 17, on voit, elle est mieux que sept fils. C'est-à-dire, elle a bien travaillé pour le bien de Naomi. Elle jouait un rôle très important. Mais elle était aussi très importante pour Israël. Qui peut citer pour nous le dernier verset du livre du Juge? Vous voulez, l'un l'autre. C'est bon ici. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. D'accord. Maintenant, comment se termine le livre de Ruth? Salomon engendre Boaz engendre Obed engendre Isaïe, et Isaïe engendre David. Et quand on pense à David, on pense qu'il était quoi? Roi. Mais pas un seul roi, mais peut-être le plus grand roi dans l'histoire d'Israël. C'est lui qui a changé Israël. Avant, c'était tout le monde faisait ce qui semblait bon devant leurs propres yeux. Maintenant, on a un roi qui insiste, bon, plus ou moins, sur la justice. Grâce à Ruth, la Noémie, l'étranger, une personne marginale, mais Dieu l'a utilisé pour le bien d'Israël, mais aussi la lettre pour nous. Parce qu'en Matthieu chapitre 1, on parle de qui? Jésus, le fils de Abraham, le fils de David. Et il mentionne explicitement cette femme, Ruth, une personne marginale. Et j'espère pour nous ce matin qu'on peut prendre deux idées. On doit montrer la fidélité miséricordieuse de Dieu aux personnes marginales. C'est à nous, le peuple de Dieu, de donner un accueil chaleureux à eux. On ne veut pas être les personnes qui aiment les pauvres. Oui, c'est nous. Nous sommes ensemble. Oui, nous sommes confortables avec nous. Non, il faut les autres qu'ils soient bienvenus. Ça, c'est une autre affaire. En fait, on doit les chercher et les amener à être dans la face de Dieu. Et on doit demander, chacun doit demander, est-ce que je suis une personne qui me soit? Même s'ils ne sont pas très attirants. Et après, il y a une autre application, j'espère. Parfois, peut-être, nous nous sentons d'être des personnes marginales. Parce que, bon, nous ne sommes pas très importants dans le monde. C'est vrai. Il n'y a pas trop de nobles dans le monde. Mais Dieu fait les choses à travers les personnes marginales. Regardez la vie de Ruth. Considérez cette vie. Une étrangère, une veuve, une moabite, mais à travers elle, Dieu a envoyé son Fils unique, bien-aimé, pour être le sauveur du monde. Et nous, qu'est-ce que Dieu peut faire à travers nous, même si nous ne sommes pas trop importants, trop importants? Oui, mais Dieu utilise les utiles qui lui rendent la voix. Et ça nous donne, c'est les deux applications, mais j'espère que ça nous amène aussi à la louange. Parce que franchement, nous sommes quand même. Paul dit, Dieu nous a cherchés quand nous étions des ennemis. Quand même, avec des moines. Normalement, on n'avait pas le droit d'être en Israël, mais quand même. Nous sommes bienvenus. Nous sommes invités d'être là. De faire partie de la famille de Dieu. Et quelle motivation pour nous réunir. Même si nous étions des personnes normales, maintenant, nous appartenons à la famille de Dieu, grâce à Jésus-Christ, son Seigneur. On va terminer par la prière et après on va prendre la parole. Merci Père pour cette grâce